BFM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Il y a 7 ans, il y avait donc ce dramatique attentat. Le 11 septembre, François Bugeon de l'Étang, bonjour.
Bonjour,
vous avez été longtemps à Washington comme ambassadeur de France. Vous connaissez très bien la politique américaine et puis les différents candidats. Donc, on va essayer d'analyser un peu ce qui se passe. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un effet Sarah Palin, donc la colistière de John McCain. Est-ce que finalement, Barack Obama, tiens, juste question, n'est pas la nouvelle icône des États-Unis, mais est-ce que ça lui donne les moyens d'être le nouveau président des États-Unis?
Écoutez, l'effet Sarah Palin, je crois que c'est normal. Pour trois raisons, au fond. Premièrement, c'est une femme. On n'a pas vu de femme candidate à la vice-présidence des États-Unis sur le ticket définitif, je ne parle pas des primaires, depuis Géraldine Ferraro. Ça fait quand même très longtemps, donc c'est une première raison. La seconde, c'est que c'est une ultra-conservatrice, oui. Ce qui, pour John McCain, est un renfort bien utile, puisque, comme vous le savez, il est considéré comme dangereusement à gauche par une grande partie des républicains conservateurs au Sud, et qu'il avait besoin de renforts dans ce domaine. Et puis la troisième raison, qui est très conjoncturelle, c'est qu'on est juste au lendemain de la convention républicaine de Saint Paul, et que c'est l'effet après, c'est un effet classique dans les sondages, l'effet après convention qui marque toujours une montée rapide dans les sondages. Donc il faut voir dans quelques semaines où nous en serons, les choses évoluent très vite.
Oui, mais Barack Obama, il est vraiment devenu une icône. Est-ce que finalement ça ne va pas lui jouer un mauvais tour? C'est-à-dire c'est le chouchou des médias, il est... Mais du coup ça met presque en doute sa capacité présidentielle.
Il est une icône en Europe, si vous permettez que je corrige ce propos.
Ah, c'est intéressant, oui.
Il est une icône en Europe. D'ailleurs, les sondages européens sont extraordinaires.
Les Français votent la large majorité Barack Obama.
J'ai vu hier un sondage disant que 86% des Français se déclaraient en faveur de Barack Obama. Je pense qu'on retrouverait à peu près les mêmes chiffres dans une grande partie des pays européens. Aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Mmh. Il est un candidat démocrate. Il est un candidat qui, lui aussi, a eu l'attrait de la nouveauté pendant très très longtemps. D'abord parce que c'est un Africain-Américain, c'est le fils d'un immigrant, c'est un candidat jeune, il a maintenant 47 ans, mais il en avait 46 quand il est apparu sur la scène, et puis qu'il est encore relativement inexpérimenté, du moins c'est ce qu'aime à dire la campagne de M. McCain.
Absolument, Carly Fiorina, donc l'ancienne patronne de Hewlett-Packard, qui soutient John McCain, qui était à Paris à l'initiative du magazine américain Foreign Policy, disait justement, attendez, c'est toujours le machisme ambiant, on dit que Sarah Palin est inexpérimentée, elle dirige un des plus grands états des États-Unis, en l'occurrence l'Alaska.
Pas plus grand par la superficie.
Oh, la superficie, absolument.
Certainement
oui.
Pas par le produit intérieur brut, ni par la population.
Non, cela dit, il y a beaucoup d'énergie, il y a du pétrole, il y a du gaz en Alaska. Elle disait, elle a pris des décisions, quand vous regardez les décisions exécutives qu'a prises le sénateur Barack Obama, eh bien, il n'y en a quasiment pas, il n'a jamais voté oui ou non.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais c'est effectivement un des thèmes récurrents de la campagne McCain. Soyons justes, le sénateur...
C'est pour ça que vous êtes là, François Bugeon de l'Étang.
Je vais essayer de l'être. Le sénateur Obama a une expérience fédérale encore courte. Il a été élu au Sénat en 2004. Il a donc un peu moins de 4 ans d'expérience au Sénat fédéral des États-Unis. Auparavant, il était un législateur de l'État de l'Illinois, ce qui est évidemment quelque chose de beaucoup plus local.
Ça fait 2 ans qu'il est en campagne, vous me direz.
Donc, en campagne depuis 2 ans. Il est donc sénateur depuis janvier 2005, c'est là qu'il a pris ses fonctions. Il est membre de la commission des affaires étrangères du Sénat. Généralement, le reproche qu'on lui fait, c'est de ne pas s'être signalé par une activité législative intense,
voilà,
et de n'avoir attaché son nom à aucune législation particulière. C'est exact. Mais en termes d'expérience, excusez-moi, mais Madame Palin a été maire d'une ville de 60 000 habitants. Elle est aujourd'hui gouverneure depuis 2 ans seulement d'un État qui est l'un des moins peuplés des États-Unis. En termes d'expérience exécutive, elle a plus d'expérience exécutive parce qu'elle n'est pas législateur, elle est gouverneur. Mais l'expérience est courte, et pour ce qui est de l'expérience internationale, vous me permettrez d'être dubitatif.
Oui, et pour les deux, ça pour les deux, non, on peut dire.
Surtout pour elle.
Surtout pour elle. Et ben voilà, ça c'est envoyé, réponse à Carly Fiorina. Joe Biden, donc le colistier de Barack Obama, c'est l'inverse, il connaît bien la politique internationale, mais alors lui, il a disparu. C'est-à-dire qu'on parle de McCain, de Sarah Palin, de Barack Obama, on parle parle très peu de Joe Biden.
On parle peu de Joe Biden, qui n'a pas été une sensation d'ailleurs, parce que son nom avait beaucoup circulé, que l'on avait pensé à lui comme un des colistiers possibles.
Donc gouverneur du Delaware, oui.
Voilà, ensuite c'est une figure déjà connue, il a été deux fois lui-même candidat démocrate dans les élections primaires américaines, cette année et déjà il y a 4 ans. Il est sénateur depuis 35 ans, sénateur du Delaware, il est le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, c'est quelqu'un de connu, si vous voulez. Il n'y a pas donc l'effet de nouveauté de la candidature Sarah Palin. Je pense qu'on reparlera... Non, pas vraiment, mais disons que c'était un candidat très classique, c'est un autre sénateur, il vient de Washington. Ce qui joue aussi, je dois le préciser, en faveur de Sarah Palin, c'est qu'elle ne vient pas de Washington.
Ah oui, un peu c'est visuel, un gouverneur... cette attaque très forte lors de la Convention de Saint-Paul.
C'est un gouverneur d'État, et comme vous le savez, il y a aux États-Unis, dans la population américaine, un rejet très très fort de la classe politique d'une façon générale et de Washington. En général. Donc, elle joue de cet effet-là également. Mais Joe Biden n'avait donc pas l'attrait de la nouveauté. Il apportait au contraire l'expérience, notamment l'expérience internationale. C'est ce qu'avait cherché Barack Obama, à qui l'on reprochait d'avoir une expérience internationale très très courte. Chacun des candidats présidentiels cherche évidemment un complément dans son colistier.
Oui. Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur, finalement, Barack Obama, en ne nommant pas Hillary Clinton ? Alors, vous êtes déjà venu sur BFM nous expliquer que bon, c'est vrai qu'il avait peur d'avoir Bill Clinton dans les pattes, ça, d'accord. Mais aujourd'hui, quand on voit l'effet Sarah Palin, peut-être qu'il aurait pu avoir Hillary Clinton quand même.
Je pense que c'était difficile. Ils ont été des adversaires dans les primaires. La campagne des primaires avait été souvent très, très dure. Je ne pense pas qu'il y ait un excès d'affection entre deux. Il lui était difficile de réparer les ponts au point d'avoir Hillary Clinton. Et puis Hillary Clinton, pour le coup, ce sont les années 90, c'est la présidence Clinton, et on est dans un autre siècle, on est dans une autre ère. Et je pense qu'il n'a pas voulu se lier de trop près à l'image de l'administration Clinton.
Encore beaucoup de questions à vous poser, François Bujon de l'Étang. On fait un détour par les marchés, les infos, le journal de l'Écho. On se retrouve juste après.
Un journal de l'économie toutes les demi-heures, uniquement sur BFM.
BFM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Vous êtes toujours dans le 12-15 sur BFM avec mon invité François Bujon de l'Étang. François Bujon de l'Étang, je rappelle, vous avez été à Washington comme ambassadeur de France pendant longtemps. On parlait donc de Joe Biden en disant donc le colistier de Barack Obama, que c'était un peu le quatrième homme, mais qu'on le voyait très peu entre Sarah Palin qui fait la une de tous les médias américains, puis Barack Obama. Cela dit, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire, la commémoration des attentats du 11 septembre, si jamais, alors un attentat peut-être pas de cette ampleur, mais une crise internationale, une crise diplomatique survenait, ça serait favorable à qui ? À Joe Biden, justement ?
Ça serait favorable aux gens qui ont le plus d'expérience des affaires internationales et qui inspirent le plus confiance aux Américains. Joe Biden, en effet, a été légèrement éclipsé, on l'a dit, par l'effet
Sarah Palin,
de Sarah Palin, et aussi par le fait que dans la chronologie, la convention républicaine a succédé à la convention démocrate.
Oui.
Donc ça, c'est une chose assez normale.
Mais Joe Biden, donc on sait, donc c'est gouverneur de Delaware, on va le rappeler.
Sénateur.
Il connaît le sénateur, pardon. Et justement, il préside la commission des affaires étrangères au Sénat, donc il connaît très bien. Ça serait le retour du quatrième homme.
Oui, je pense que les choses vont évidemment beaucoup évoluer, beaucoup fluctuer dans les semaines qui viennent. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 8 semaines à peu près.
Oui, mais certains vont commencer à voter dès le 23 septembre par les votes électroniques.
Correspondance, en effet. Mais enfin, il reste à peu près 8 semaines et il va y avoir des hauts et des bas dans cette campagne qui est, je le rappelle, extrêmement serrée. On assiste à une espèce de coude à coude en réalité entre les deux candidats. Si l'actualité internationale s'impose au premier plan et prend le pas sur l'actualité domestique américaine, on peut s'attendre à deux choses. D'abord, à ce qu'Obama, Biden se fasse entendre et que l'expérience de Joe Biden en effet serve le ticket Obama. Mais on peut aussi s'attendre à ce que cela joue en faveur de McCain. Je rappelle que McCain est un ancien héros de la guerre du Vietnam, que c'est lui aussi un sénateur très expérimenté. Si la conjoncture internationale est telle que les Américains de nouveau ont des inquiétudes en matière de sécurité ou de terrorisme ou d'une grande crise internationale, ils penseront Commander-in-Chief pour élire leur président et ceci ne peut que jouer en faveur de John McCain en raison de son passé, de son caractère, disons de sa stature. Si par contre il ne se passe rien d'exceptionnel sur la scène internationale, que les choses suivent leur cours et que c'est l'économie et les inquiétudes économiques et sociales des Américains qui occupent l'avant-scène dans cette campagne, logiquement, ceci devrait jouer davantage en faveur d'Obama et en faveur des démocrates. Les démocrates ont un langage plus protecteur, qui est mieux reçu pour l'instant par des Américains fatigués des Reaganomics, de la révolution conservatrice et aspirant peut-être à plus de protection et peut-être même à un certain retour de l'État. Tout ceci joue en faveur des démocrates et jouerait en faveur d'Obama.
Sur le plan international, ils ont une politique qui est assez différente. Ils ont des objectifs très différents dans les deux candidats.
Oui, sur l'Irak notamment.
Sur l'Irak, voilà, sur l'Irak et l'Afghanistan.
Sur l'Irak notamment et sur l'Afghanistan. Sur l'Irak, il se distingue en ceci que M. Obama, qui a toujours été hostile à la guerre d'Irak, s'est engagé, s'il était élu président, à entamer un calendrier de retrait des troupes américaines et à avoir terminé ce retrait en 16 mois après sa nomination, alors que John McCain, au contraire, qui a soutenu la guerre d'Irak, qui a même soutenu l'augmentation des effectifs américains en Irak décidée par George Bush l'hiver dernier, reste partisan, dit-il, de rester en Irak jusqu'à la victoire finale. Je ne sais d'ailleurs pas ce que signifie la victoire finale en Irak, mais l'attitude des deux est extrêmement différente.
Et quelle est leur attitude vis-à-vis de la Russie ? On le voit bien, la Russie qui veut revenir à des acteurs clés sur le plan international, avec la crise notamment en Géorgie, le déploiement de l'OTAN, renforcement de l'OTAN. Comment est-ce qu'ils se positionnent ? Est-ce qu'on connaît déjà un peu justement leurs options ?
Ils se sont pour l'instant relativement peu exprimés sur ce sujet, sinon pour dire qu'ils trouvaient bien entendu l'invasion de la Géorgie par la Russie inacceptable. Je pense qu'ils articuleront...
Ben là, je ne suis pas la Géorgie, c'est l'Abkhazie et l'Ossétie.
Oui, mais enfin non, les troupes russes sont entrées en Géorgie. Elles ont débordé l'Ossétie et l'Abkhazie pendant un temps. Et le problème est justement de les faire se replier. Mais ils n'ont pas encore articulé véritablement de politique à suivre à l'égard de la Russie. C'est un sujet sur lequel on les attend beaucoup. Et là, vous entendrez certainement Joe Biden sur ce point.
Oui. À votre avis, s'il n'y a pas de crise internationale, on le voit bien, l'élection, elle va se jouer sur le plan économique et social.
Oui, sur les inquiétudes économiques et sociales des Américains, qui sont très secoués par la récession, par la crise du crédit, par la crise immobilière, et par le ralentissement de la croissance.
Oui. Quels sont les hommes forts dans les deux camps, dans les deux équipes ? Vous les connaissez, François Béjean-Létang ? Il y a Carly Fiorina du côté John McCain, oui, ancien patron de Hewlett-Packard. Bon, pas bon.
Ce sont des industriels, ils ont des équipes très expérimentées l'un et l'autre dans ce domaine. Encore une fois, il me semble que Barack Obama est plus à l'aise dans les sujets économiques et sociaux que John McCain, dont ça n'a jamais été le fort. Oui. Et un point sur lequel j'insiste, parce qu'il me paraît très important, c'est que en matière d'inquiétude sociale des Américains, les démocrates, et c'était déjà le cas d'Hillary Clinton, c'est le cas de Barack Obama, ont un programme plus protecteur. Oui. L'idée de la généralisation, par exemple, de la couverture assurance maladie a un impact très très fort en une époque où les Américains ont le plus grand mal à payer leurs notes de docteur ou leurs frais d'hospitalisation. C'est donc un point majeur qui peut les distinguer. Ils ont également, en matière de politique fiscale, des positions très très différentes. Vous savez que pour l'essentiel, les allègements fiscaux portant sur les plus hauts salaires et les plus hauts revenus décidés par l'administration Bush n'ont qu'une durée limitée dans le temps. Ils durent jusqu'en 2010. Et la question est donc de savoir ce que l'on fait après 2010. John McCain veut pérenniser ses avantages fiscaux au-delà de 2010. Barack Obama dit au contraire qu'il veut y mettre fin en 2010 et utiliser ce supplément de revenus pour financer la généralisation de l'assurance maladie.
Je rappelle aussi que vous avez été ambassadeur, mais vous êtes le président pour la France de Citigroup. Par rapport à la crise des subprimes, c'est ce que vous avez le sentiment. On a vu Barack Obama, par rapport au sauvetage de Freddie Mae et de de Fannie Mae, de Freddie Mac et de Fannie Mae, qu'il était, il trouvait ça pas raisonnable de dépenser autant d'argent, et c'est une chose qu'il ne ferait certainement pas. Est-ce qu'il, là aussi, il faut s'attendre peut-être à deux options différentes?
Moi, je trouve personnellement que tout au long de la campagne, les deux candidats principaux ont eu des réactions assez semblables sur les conséquences de la crise financière, et notamment sur l'attitude de la trésorerie et de la Fed. Il y a peu de choses qui distinguent leur position sur l'un et sur l'autre. Ça a été vrai dans la plupart des épisodes de la crise financière.
On a vu, peut-être en conclusion, même si c'est anecdotique, mais quand même, peut-être une certaine fatigue des deux candidats. Barack Obama a dit, à propos de, justement de la politique économique de John McCain, le programme économique, c'était un peu quand vous mettez du rouge à lèvres à un cochon, il reste quand même un cochon. Donc, on a pris ça un peu comme une gaffe, parce que Sarah Palin, dans son discours, avait dit qu'elle était une femme
de rouge à lèvres.
Oui. Est-ce que, justement, on n'est pas à l'abri, alors qu'il va avoir les débats vont commencer, les affrontements entre les deux candidats vont commencer la semaine prochaine. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri, justement, de gaffes, de dérapages?
Bien sûr, la campagne a été terriblement longue, elle a été très éprouvante. L'épisode que vous citez a un intérêt purement anecdotique, il sera oublié demain ou après-demain, mais il y aura d'autres épisodes de ce genre. C'est une campagne qui a été plus longue qu'aucune autre campagne américaine précédemment. Le calendrier des primaires a été resserré, les candidats s'étaient déclarés longtemps à l'avance, et il va falloir tenir jusqu'au 4 novembre.
Merci beaucoup à François Bujon de l'Étang, donc ancien ambassadeur de France à Washington. Merci de votre éclairage. Visiblement, vous connaissez toujours très très bien les candidats et la campagne américaine. Merci beaucoup.
Merci de vous.